Bonjour, vous écoutez un podcast de l'Académie saison 3, proposé par le Mouvement des entreprises de France. Pour toute question liée à cet enregistrement, rendez-vous sur le site l'academiemedef.fr. Bon podcast à toutes et à tous.
Merci de votre présence pour ce webinaire consacré à la réforme des retraites. Merci à Florent et à Nathalie de nous consacrer un peu de temps, une heure, pour pouvoir analyser un petit peu tous les changements qui vont être à opérer au sein des entreprises. Et sans plus attendre, je laisse la parole à Nathalie.
Alors moi, très rapidement, je vais juste faire l'introduction et je vais passer la parole à Florent qui va vous raconter l'histoire du PLFRSSS retraite. Donc, je vais pas non plus m'étendre parce que vous avez sans doute suivi l'histoire que le gouvernement donc a utilisé le 49.3 pour que le projet de loi de financement rectificatif de la sécurité sociale portant le projet de loi réforme retraite passe. Suite au rejet des deux motions de censure qui ont été déposées par les oppositions, le texte sur lequel le gouvernement a engagé sa responsabilité est considéré comme définitivement adopté. Néanmoins, le Conseil constitutionnel a été saisi par le gouvernement et l'opposition. On attend sa décision pour le 14 avril, donc c'est vraiment la date qu'on attend avec, on va dire, avec impatience maintenant. En parallèle, la NUPES a enclenché la procédure de référendum d'initiative partagée, puisque leur souhait c'est de provoquer un référendum sur la réforme des retraites. On attend aussi que le Conseil constitutionnel se positionne sur cette RIP, donc à suivre, mais là je pense que ce sera le 14 avril aussi. Donc, on va aujourd'hui développer les mesures qui devraient impacter les entreprises, en sachant que côté Conseil constitutionnel, il se pourrait, mais là, on parle aussi au conditionnel, que certaines mesures puissent être censurées comme cavaliers sociaux. Alors, peut-être on surveille l'index senior, on surveille contrat de fin de carrière et l'abandon du transfert de recouvrement. Néanmoins, même si c'est jugé comme cavaliers sociaux, ça ne veut pas dire que ça va être abandonné, puisqu'il y a une loi qui pourrait, comme on appelle la loi plein emploi du mois de juin, qui pourrait reprendre éventuellement ces mesures si jamais le Conseil constitutionnel les jugeait cavaliers sociaux. Et c'est bien pour ça que Florent va les développer, quoi qu'il arrive, maintenant, tout de suite, en vitesse.
Merci beaucoup, Nathalie. Bonjour, bonjour à tous. Voilà, Nathalie vous a dépeint un petit peu l'état du sujet sur ce projet de réforme des retraites. Donc, vous avez vu qu'il s'agit d'un projet de loi de financement rectificatif de la sécurité sociale. Nathalie a déjà un petit peu évoqué le sujet. C'est volontaire, de la part du gouvernement de privilégier une loi financière à un projet de loi dédié. Parce qu'avec une loi financière, il a pu bénéficier d'une procédure accélérée devant le Parlement pour faciliter son adoption. Et surtout, il pouvait utiliser à volonté le 49.3. C'est d'ailleurs ce qu'il a fait au bout du compte. Et donc, ça lui a permis de faciliter l'adoption de cette réforme. Alors, une loi financière, ça a par contre une contrainte. Une contrainte, c'est que il faut qu'elle ait une conséquence en termes de recettes pour la retraite dès l'année d'adoption de cette loi, donc dès 2023. C'est bien pour ça que les mesures qui sont envisagées par le projet de loi et qu'on va vous présenter maintenant, elles sont effectives dès maintenant, et c'est vrai que ça a posé un certain nombre d'interrogations et d'inquiétudes au niveau des Français et des assurés, puisque forcément, ça va aller très vite, et notamment sur la mesure phare qui est le relèvement de l'âge de départ. Donc, on vous propose de tout de suite détailler un petit peu les mesures, les principales mesures qui impactent directement ou indirectement les entreprises. On vous fait un point sur toutes ces mesures et puis ensuite on répondra à vos questions sans problème. Donc, première mesure, la mesure phare, c'est la mesure d'âge et c'est dérogation. Donc, relèvement de l'âge légal de 62 à 64 ans et accélération du calendrier Touraine. Donc, vous avez tous entendu parler de ce fameux calendrier Touraine. En fait, c'est la durée d'assurance requise, le nombre de trimestres requis pour pouvoir liquider une pension à taux plein. Donc, en fait, il y avait déjà eu une réforme en 2014 la réforme Touraine qui avait augmenté le nombre de trimestres requis. Et donc, ce que prévoit ce projet de réforme que nous étudions maintenant, c'est d'accélérer ce calendrier. Donc, on pourra revenir en détail sur la mise en œuvre progressive de ces deux mesures sur l'âge et sur les trimestres de retraite. Mais comme je vous l'ai indiqué, vu que c'est une loi financière, ils interviennent dès cette année et donc mise en œuvre à partir du 1er septembre pour les générations nées à compter de 1961 pour la mesure d'âge. Mais on pourra y revenir si vous avez besoin de plus de détails. Comme cette mesure entraîne une augmentation de la quantité de travail, il y a un certain nombre de dérogations qui ont été prévues et qui sont venues s'ajouter au fil de l'examen du texte devant le Parlement. À commencer par l'amélioration du dispositif carrière longue. Tout le monde connaît le principe des carrières longues, hein. C'est des personnes qui commencent à travailler tôt et qui ont une carrière complète, hein, qui ont travaillé toute leur carrière, ils peuvent bénéficier de conditions favorables de départ anticipées. Et donc, aujourd'hui, il est prévu de créer un système par palier. Alors, il y avait déjà plusieurs âges de départ anticipés, mais maintenant, on en a quatre au lieu de deux auparavant, avec, bien sûr, en fonction de la date de début d'activité, un départ plus ou moins anticipé. Donc, on vous a remis les quatre paliers dans le slide. Donc, si une personne a commencé à travailler avant 16 ans, alors, commencer à travailler avant 16 ans, ça veut dire avoir réuni, en fonction de la date de naissance, déjà entre 4 et 5 trimestres avant la fin de l'année du 16e anniversaire. Et donc, possibilité avant 16 ans de partir à 58 ans, avant 18 ans de partir à 60 ans, avant 20 ans de partir à partir hein, dès 62 ans, et un nouveau palier qui a été ajouté plus récemment, c'est la possibilité de partir à partir de 63 ans si on a commencé à travailler avant 21 ans. Vous voyez, un système par palier. Et d'ailleurs, si on ajoute ce départ anticipé avec les départs qu'on va voir après hein, pour raison de santé, on estime qu'en réalité, à terme, ce serait environ 40% d'assurés qui pourraient partir avant 64 ans grâce à ces départs anticipés, à ces dérogations. Donc, amélioration du dispositif carrière longue. Il y a aussi un plafonnement de la durée d'assurance à 43 annuités. Donc, dès lors qu'on a 43 annuités et qu'on a commencé à travailler avant les âges que j'ai précisés, eh bien, il y aura une possibilité d'anticiper le départ. Pourquoi c'est une amélioration? Eh bien, parce que avant cette réforme, en fonction des âges de départ anticipés, il fallait réunir plus de 43 annuités. Voilà. Donc, globalement, hein, c'est un assouplissement, une amélioration significative du dispositif. Il y a aussi, bien sûr, des départs anticipés pour raisons de santé qui existaient déjà. Et donc, le projet de loi prévoit de maintenir le régime dérogatoire. En fait, on maintient les âges de départ qui étaient préexistants à cette réforme. Donc, pour les personnes reconnues invalides ou inaptes, départ possible à 62 ans. Pour les travailleurs handicapés qui justifient d'avoir travaillé un certain temps avec un handicap reconnu, eh bien, possibilité d'anticiper le départ dès 55 ans. Par ailleurs, on pourra y revenir si vous avez des questions. Le projet de loi prévoit un assouplissement des conditions de bénéfice de ce départ anticipé. C'est vrai que les conditions actuelles sont quand même très restrictives et il y a quelques centaines, maximum quelques milliers de personnes qui peuvent en bénéficier parce que les conditions étaient très très restrictives. Donc là, on assouplit ces conditions. Et bien sûr, notamment pour les travailleurs de l'amiante, il y a un départ spécifique qui est prévu, qui était déjà existant à 50 ans. Si vous avez des questions, on les prendra à la fin si ça vous convient. Tu voulais ajouter quelque chose, Nathalie ou...
Juste, mais tu vas faire le lien plus tard, il y a aussi le système VERT qui est un départ anticipé, mais qu'on développera après dans la notion d'usure.
Oui, départ anticipé pour au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle qui entraîne une incapacité permanente. On verra après dans les mesures usure professionnelle que le dispositif est maintenu et même assoupli. Donc, mesures d'âge, dérogation, bien sûr des mesures aussi sur l'emploi des seniors, donc qui vont impacter directement les entreprises. Vous avez entendu parler de ce fameux index senior qui pourrait d'ailleurs être censuré par le Conseil constitutionnel parce que considéré comme un cavalier social. On pourra y revenir si la notion n'est pas claire. Donc cet index senior, il s'appliquera aux entreprises de 300 salariés et plus. À un moment donné, il avait été envisagé d'abaisser les seuils à 50 salariés, mais notamment avec la mobilisation du MEDEF, on a obtenu que le seuil reste à 300 salariés et plus. Avec, comme sur le modèle finalement de l'index égalité femmes-hommes, un régime de sanction avec une pénalité en cas de non-publication des résultats. Et donc le montant de cette pénalité dépendra des efforts constatés dans l'entreprise. Et par ailleurs, si on constate que la situation est négative sur plusieurs exercices consécutifs, eh bien l'employeur devra engager une négociation pour mettre en œuvre les moyens d'améliorer ses résultats sur l'index senior. Donc, il n'y a pas encore dans le texte d'indicateurs définis pour mesurer les résultats de l'entreprise sur les seniors. Il y aura une concertation qui sera engagée avec les partenaires sociaux prochainement pour les définir. Donc nous, on sera très vigilants du côté du MEDEF pour que ce soit des indicateurs qui puissent être objectivables et maîtrisables par les entreprises. Il y a des données factuelles, le taux de formation des seniors, l'accès aux visites médicales, de carrière, qui peuvent être utilisées. Par contre, voilà, il y a d'autres indicateurs qui sont pas maîtrisables par les entreprises. Je ne sais pas, moi, le taux de recrutement, le taux de rupture de contrat avant la date de départ en retraite, des choses comme ça. Nous, on considère que ce sont pas des bons indicateurs et on sera vigilant à ce que les entreprises puissent avoir des indicateurs maîtrisables.
On sait quelle autorité sera en charge de ce contrôle déjà.
À la date, c'est l'EDRET.
D'accord.
Voilà, absolument. Par ailleurs, le thème de l'emploi des seniors fera partie des thèmes de négociation désormais pour la GEPP. Donc voilà, on incite les entreprises fortement à négocier sur le sujet. Création d'un contrat de fin de carrière, ce que certains ont appelé le CDI senior, qui sera ouvert au recrutement de demandeurs d'emploi de 60 ans ou plus. Donc c'est un contrat avec des conditions favorables d'embauche pour les entreprises, une rémunération exonérée de cotisations familiales sur les 12 premiers mois du contrat et une mise à la retraite facilitée. En effet, aujourd'hui, on ne peut mettre à la retraite un salarié qu'à partir de 70 ans. Bon, avec ce contrat, il sera possible de mettre à la retraite dès que le salarié embauché, le demandeur d'emploi embauché finalement, obtiendra les conditions pour pouvoir partir à taux plein. Et par ailleurs, les indemnités de mise à la retraite aujourd'hui sont assujetties à une contribution patronale spécifique très très importante, de 50% du montant versé. Eh bien, pour ces contrats de fin de carrière, cette contribution spécifique ne sera pas due. Par ailleurs, il est prévu une harmonisation du taux de prélèvement sur les indemnités de rupture. Donc, pour faire court, aujourd'hui, en fonction des indemnités, le taux la contribution patronale sur le montant des indemnités varie, et varie significativement. On est à 20% sur des ruptures conventionnelles, 50% sur une mise à la retraite, et de l'ordre de 30% pour les départs volontaires à la retraite. Bon. L'objectif du gouvernement, c'était d'harmoniser ce régime des contributions et des charges sur les indemnités de rupture en mettant une contribution unique au taux de 30%. En fait, derrière, l'objectif, c'est d'avoir des ruptures conventionnelles qui sont un peu plus chargées, puisqu'ils considèrent, chiffre à l'appui, qu'il y a un peu un effet d'aubaine juste avant l'âge de la retraite. Avec un nombre de ruptures conventionnelles assez important, ils considèrent qu'en rendant le dispositif un peu moins avantageux, ils pourraient inciter davantage de salariés et d'entreprises à conserver leurs travailleurs seniors. Néanmoins, cette harmonisation du taux de prélèvement est valable, quel que soit l'âge, et sur toutes les indemnités de rupture. Par ailleurs, il est prévu une mutualisation des charges liées aux maladies professionnelles à effet différé. Peut-être que Nathalie, tu veux en dire un petit mot.
Alors ça, c'est un sujet qui revient sur la table assez régulièrement. L'idée pour favoriser l'emploi des seniors, c'est d'encourager les entreprises donc à prendre des seniors. Mais certaines d'entre elles disaient, mais La difficulté, c'est que certains seniors ont une maladie professionnelle et la jurisprudence fait que c'est le dernier employeur qui prend en charge la maladie professionnelle alors qu'elle a pu peut-être être déclenchée dans une autre entreprise et de façon antérieure. Donc l'une des solutions, alors c'était, ça avait été déposé par amendement hein, par le gouvernement et n'était pas dans le texte initial. L'idée était de mettre cette idée sur la table. Les sénateurs sont allés plus loin puisqu'ils en font en fait une, non pas une possibilité mais une obligation que la branche accident de travail maladie professionnelle prévoit cette mutualisation des maladies professionnelles entre les entreprises lorsqu'elles ont un effet différé. Donc on verra concrètement comment cela va être pris en compte au niveau de la branche accident de travail maladie professionnelle. Sachez que nous en tout cas côté MEDEF on voulait quand même à ce stade en faire une expérimentation parce qu'il va y avoir peut-être des effets que le gouvernement n'avait pas forcément instruit. Cette idée d'expérimentation n'a pas été reprise puisque les sénateurs en ont fait en fait une obligation que la branche accident de travail prendra en compte. Voilà. Donc sur le principe, le sujet est de favoriser l'emploi des seniors via cette mutualisation des maladies professionnelles à effet différé.
Merci beaucoup Nathalie. Voilà encore une mesure. Une mesure qui est destinée voilà, à inciter à recruter des travailleurs seniors en réduisant leur coût potentiel, et là notamment sur les risques liés aux maladies professionnelles. Par ailleurs, la transition emploi-retraite est renforcée avec deux dispositifs qui existaient déjà, hein, mais qui sont améliorés. Le cumul emploi-retraite, puisqu'aujourd'hui, lorsqu'on reprend une activité à la retraite, on cotise sur notre salaire, mais à fond perdu. Donc là, il est prévu que désormais, une reprise d'activité pour un retraité puisse ouvrir de nouveaux droits, des droits supplémentaires à la retraite. Donc ça devrait inciter davantage de retraités à poursuivre une activité professionnelle. Et par ailleurs, l'accès à la retraite progressive sera facilité. Je ne sais pas si tout le monde a en tête le dispositif de retraite progressive, hein, mais c'est la possibilité, un peu avant l'âge de départ à la retraite, voire... après, hein, peu importe, de pouvoir bénéficier d'un passage à temps partiel et d'une compensation de la perte de revenus par un versement provisoire d'une partie de la future retraite. Donc ça permet de réduire l'activité et d'avoir une compensation sur la perte de rémunération. Donc aujourd'hui, c'est assez peu connu, assez peu utilisé. Néanmoins, voilà, ça pourrait devenir un dispositif qui monte en charge rapidement puisque... on va notamment faciliter la demande de temps partiel pour les salariés qui rentreraient dans les conditions d'éligibilité de ce dispositif. Voilà pour les mesures seniors, je dirais. Ensuite, les mesures liées à l'usure professionnelle. Donc peut-être qu'on va faire ça à deux voix avec Nathalie. D'abord, le compte pénibilité, le fameux C2P. Donc, il va être sensiblement amélioré hein, en termes de rendement, puisque les conditions d'acquisition des points vont être assouplies, renforcées. Le compte qui était plafonné aujourd'hui à 100 points sera déplafonné, donc il pourra générer plus de droits. Le nombre de points en cas de polyexposition sera augmenté. Et par ailleurs... plusieurs seuils d'exposition, travail de nuit et travail en équipe successive, puisque vous savez, il y a plusieurs facteurs de risque qui génèrent des points comptabilisés sur ce compte qui peuvent ouvrir droit à différents usages. On peut bénéficier d'une prise en charge de formation, d'une prise en charge d'un complément de salaire sur le passage à temps partiel ou potentiellement de départ anticipé à la retraite. Et donc, certains seuils, travail de nuit, travail en équipe successive, sont abaissés afin qu'il y ait plus de personnes qui puissent être concernées, entrer dans le compte et bénéficier des droits ouverts par le compte. Par ailleurs, un nouvel usage est ouvert. Donc, j'ai dit qu'il y avait la formation, le passage à temps partiel et la cessation anticipée d'activité. Et donc, il y aura aussi désormais la possibilité de prendre en charge un projet de reconversion professionnelle en essayant d'inciter, plutôt que d'anticiper la retraite, à utiliser pour ce projet de reconversion afin d'aller potentiellement vers des métiers moins pénibles et donc de pouvoir poursuivre l'activité plus longtemps. Est-ce que là-dessus, tu veux ajouter quelque chose, Nathalie ?
Peut-être juste sur le déplafonnement du compte, en tout cas des points, s'agissant de la cessation anticipée, on reste sur 2 ans maximum. C'est-à-dire que, comme tu le diras, le salarié pourra partir à partir de 60 ans, mais il ne pourra pas bénéficier plus de points pour bénéficier de 3 ans ou 4 ans de cessation anticipée. On reste sur
62
ans. 62.
Par rapport à 64, oui. 2 ans avant, 62.
Ouais, 62 ouais. Ans.
Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, le compte pénibilité, bon, il commence hein, à monter en charge doucement. Il avait été créé en 2014, il avait été revisité en 2017. Donc, forcément, il faut un petit peu de temps d'exposition pour s'ouvrir des droits. Donc, pour l'instant, c'est pas forcément un dispositif qui représente une charge importante pour la branche AT-MP. Mais forcément, si on l'ouvre, si on augmente la rentabilité des points, eh ben, on va augmenter le coût. Donc là-dessus, on est vigilant parce que voilà, le coût va être exponentiel dans les années à venir. Et bien sûr, c'est financé par la branche AT-MP, donc par nos cotisations. Par ailleurs, il est prévu la création d'un fonds d'investissement dans la prévention de l'usure professionnelle pour les salariés particulièrement exposés aux facteurs de risque ergonomiques, ce qu'on appelle communément les TMS. Alors, pour mémoire, ces facteurs de risque TMS, ils avaient été enlevés du compte pénibilité. Donc aujourd'hui, il n'y avait pas de dispositif en propre qui les prenait en charge. Et donc ce fonds dédié à la prévention doit permettre de mieux prendre en compte les salariés exposés à ces facteurs de risque. Donc c'est la branche AT-MP qui va alimenter le fonds avec des dotations pour financer des actions de prévention, reconversion, formation. Il y a l'ouverture d'une négociation au niveau des branches. Donc très rapidement après la promulgation de la loi à la rentrée prochaine, pour identifier les métiers exposés, et à défaut si les négociations de branche n'aboutissent pas, eh bien la branche AT-MP prendra le relais. Et par ailleurs, et Nathalie me complétera utilement, il est prévu la mise en place d'un suivi médical spécifique pour ces populations exposées aux facteurs de risque ergonomiques, avec une visite par la médecine du travail de mi-carrière, et aussi et surtout une visite de fin de carrière, un peu avant, à 61 ans, pardon, de mémoire. Et donc, en fait, l'objectif, c'est que le salarié exposé puisse rencontrer la médecine du travail, faire un check-up, on va dire, et éventuellement, si c'est nécessaire, eh bien, la médecine du travail pourra orienter le salarié exposé vers la sécurité sociale pour une retraite au titre de l'inaptitude s'il y a un constat médical. Donc nous, on tenait beaucoup à ce qu'il y ait un filtre médical qui soit conservé. Hein, l'objectif, c'était pas de recréer des régimes spéciaux où on ferait rentrer tous les salariés exposés au TMS dans des départs anticipés. C'est pas du tout l'objectif. Nous, on tenait à ce qu'il y ait un filtre médical, un suivi médical qui puisse objectiver une situation de santé qui permettre d'anticiper le départ. Nathalie, tu peux...
Oui, non, tu as tout à fait raison, puisque ça, c'est le point, on va dire, de divergence avec les organisations syndicales, puisque leur ambition, c'est qu'on puisse définir des métiers et qu'il y ait une quasi-automaticité pour permettre aux salariés de partir. Donc, c'est vrai que le fait qu'il y ait ce filtre médical, ça nous permet d'objectiver la situation et de pas créer cette présomption à partir de listes de métiers et de postes. Donc, ça, c'était un point... de vigilance, en tout cas, on avait le mandat de nos branches professionnelles pour que ça soit vraiment le point de vigilance de notre côté.
Et j'ajouterais qu'à un moment donné, les sénateurs, lors de l'examen du texte au Sénat, avaient intégré un amendement qui ajoutait le risque chimique dans ce fonds de prévention. Et donc, il y a eu une mobilisation du MEDEF pour ne pas retenir le risque chimique dans les risques pris en compte par ce fonds de prévention, parce qu'on considère, Nathalie, que voilà, c'est pas forcément mesurable et qu'il y avait un risque derrière qui est mise en place de dispositifs de départ anticipé. Donc c'était déjà facteur de risque ergonomique qui avait été enlevé dans le C2P. On considère que c'est déjà une mesure forte. Et puis derrière, encore une fois, alimenté par la branche AT-MP, donc par nos cotisations. Nathalie l'a évoqué rapidement tout à l'heure sur les départs anticipés. Il y a aussi alors ce qu'on appelle le dispositif Wörth-Bertrand, qui est aussi appelé dispositif au titre de l'incapacité permanente. Vous savez, c'est les salariés qui ont été exposés à des risques qui ont entraîné un accident du travail ou une maladie professionnelle avec une incapacité constatée permanente. eh bien, ils bénéficient de conditions de départ plus favorables que l'âge légal. Et donc, le texte prévoit le maintien d'un âge de départ anticipé à 60 ans. Au départ, c'était prévu 62, mais ils sont revenus à 60 ans. Donc forcément, l'impact sera pas le même en termes de dépenses. Et par ailleurs, ils réduisent la durée d'exposition au risque permettant d'ouvrir le droit de 17 à 5 ans. Donc on pense qu'il va y avoir quand même un nombre de bénéficiaires plus important qu'auparavant. Et donc c'est vrai que derrière, mais on va en parler plus tard, ça joue sur l'équilibre global de la réforme et les perspectives de retour à l'équilibre, toutes ces mesures. Je continue, encore une fois, on prendra vos questions à la fin si ça vous convient, il y en a peut-être déjà d'ailleurs. Donc il y a eu d'autres mesures, alors bon, on a appelé ça autre mesure, mais c'est des mesures aussi sociales. La revalorisation du minimum de pension, donc l'objectif étant de porter le montant du minimum de pension à 85% du SMIC, sous certaines conditions de durée d'assurance, sous certaines conditions de travail. Il faut justifier d'avoir une carrière complète, d'avoir cotisé un certain nombre de trimestres pour pouvoir bénéficier de ce relèvement du minimum de pension. Globalement, l'ensemble des pensions que toucheront ces salariés qui ont donc des petites pensions et qui ont travaillé toute leur carrière, il devra atteindre autour de 1200 euros. Par ailleurs, l'indexation de ce minimum de pension, elle sera faite désormais sur le SMIC et non plus sur l'inflation. Bon. Donc voilà, ça va augmenter la pension pour un certain nombre de nouveaux retraités. Et d'ailleurs, ça concerne à la fois les nouveaux et ceux qui sont retraités actuellement. Alors attention, il y a eu très rapidement, mais il y a eu un certain nombre de polémiques dans la presse en disant que, en réalité, très peu de personnes pourraient bénéficier de cette revalorisation et qu'en tout cas, très peu de personnes atteindraient les fameux 1200 euros qu'a évoqué le gouvernement. Alors ça, c'est lié aux conditions de bénéfice de ce minimum de pension, donc ce qu'on appelle le minimum contributif, puisque il faut justifier d'avoir un certain nombre de trimestres cotisés, donc d'avoir eu vraiment une durée travaillée. Or, un certain nombre de personnes ont eu des trous dans leur carrière, du chômage, se sont arrêtés pour élever des enfants, bref, ce sont pas forcément des périodes qui sont soumises à cotisation, et donc ça peut jouer sur le calcul du minimum contributif, et forcément tout le monde n'aura pas les fameux 1200 euros qui sont évoqués. Par ailleurs, il est prévu la création d'une surcote, alors entre guillemets, une surcote mère de famille. En réalité, le dispositif sera ouvert à tous les parents qui auront bénéficié de ce qu'on appelle les majorations de durée d'assurance pour enfants, les fameux trimestres au titre de la naissance d'un enfant. Donc ça peut être le père ou la mère, très 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 généralement, ce sont les mères qui récupèrent ces trimestres. Et donc ce qui est prévu, c'est de faire bénéficier à ces mères de famille entre guillemets de la surcote au régime général avant l'âge légal. Alors normalement, le principe de la surcote, c'est lorsque vous avez rempli les conditions du taux plein, à savoir atteint l'âge légal, qui sera désormais à 64 ans, et réuni le nombre de trimestres requis, toute l'activité que vous continuez à faire avant de prendre votre retraite, elle génère une surcote, un bonus sur le montant de la retraite. Bon, eh bien pour les mères de famille qui justifieront d'avoir donné naissance ou élevé un enfant, eh bien elles pourront bénéficier de ce bonus avant l'âge légal, donc dès 63 ans. Donc ça permettra d'augmenter, vous voyez, c'est 5% par an. Alors attention, c'est 5% de plus sur la retraite de base versée par la Sécurité sociale. Ça ne concerne pas la retraite complémentaire Agirc-Arrco ou toute autre retraite complémentaire. Par ailleurs, il est prévu la suppression progressive des principaux régimes spéciaux. On peut citer la RATP, le régime d'électricité industrie gazière, via une clause du grand-père. Donc ça veut dire qu'en fait, ça ne concernera cette suppression que les nouveaux embauchés. Il faudra, les personnes qui ont déjà été embauchées avant la promulgation de la loi continueront de bénéficier de ces régimes avec leurs particularités, notamment en termes de calcul de la retraite ou de conditions d'âge de départ. Un certain nombre d'autres mesures sont prévues, notamment une meilleure prise en compte des situations d'aidance pour la retraite. C'est vrai qu'on a de plus en plus de personnes hein, qui doivent se retrouver dans des situations où elles doivent cesser temporairement, plus ou moins longtemps, leurs activités pour s'occuper d'un proche, malade, handicap, dépendance. Et donc, aujourd'hui, il existait déjà des dispositifs, mais assez restreints. Et donc, il est prévu vraiment de faciliter l'accès pour prendre en compte ces sujets. Et d'une certaine manière, ça va aussi dans le sens d'une meilleure, plus grande conciliation vie privée, vie professionnelle. Et voilà, nous, on pousse bien sûr pour ces sujets. Dernière slide, et puis après, on pourra répondre aux questions. Sur le bouclage financier de la réforme, c'est quand même important. Vous connaissez normalement, vous avez eu un certain nombre d'éléments de langage de la part du MEDEF. Hein. Le MEDEF, il soutient globalement cette réforme. Elle est difficile, mais elle est nécessaire puisque aujourd'hui les projections financières démontrent que le système, si rien n'est fait, le système de retraite sera durablement déficitaire. Et donc on soutenait l'idée et le principe de cette réforme qu'on considère in fine globalement équilibrée, même si vous l'avez vu, il y a quand même des mesures qui impactent directement ou indirectement les entreprises, et donc on sera vigilant sur leur mise en œuvre par voie réglementaire après la promulgation de la loi, hein, on sera vraiment vigilant là-dessus. En tout cas, l'objectif de la réforme, c'était d'équilibrer le système de retraite en 2030. Alors attention, ce sont des chiffres à prendre avec des pincettes, ce sont des projections de plus ou moins long terme, et il faut vraiment se dire que le gouvernement, dans ses projections, a pris des hypothèses qu'on considère à minima comme optimistes, notamment hein, pour calculer les déficits et même le rendement de la réforme. Ils partent du principe qu'il y aura un retour rapide d'ici 2030 au plein emploi. Alors, les indicateurs qu'on a économiques ne nous permettent pas de prendre cette perspective avec sérieux, malheureusement. Mais du coup, si on n'arrive pas au plein emploi en 2030, le déficit il sera nécessairement plus important que ce qu'on voit là. Donc, état du sujet avant réforme, en 2030, plus d'une dizaine de milliards d'euros de déficit. Et donc, la réforme entraîne des recettes supplémentaires, essentiellement liées au recul de l'âge et à l'accélération de la durée d'assurance requise pour le taux plein, avec un chiffre assez significatif, plus 19 milliards en tout. Mais, vous l'avez vu, il y a beaucoup de mesures d'accompagnement qui ont été mises en œuvre, et notamment intégrées à la fin de la procédure parlementaire, puisque le gouvernement avait toujours l'espoir que le texte puisse être adopté sans recours au 49.3. Bon. Mais du coup, vous voyez, les mesures d'accompagnement sur les départs anticipés, sur les seniors, sur l'usure professionnelle, bon, bah, voilà, ça coûte de l'ordre de 7 milliards au système de retraite. Et donc, le solde prévisionnel, vous voyez, en faisant l'opération, bon, bah, on restait en déficit en 2030. Et donc, comment ont-ils fait pour s'assurer d'avoir le système de retraite à l'équilibre? Bah, il fallait trouver l'argent quelque part. Et donc, a été prévu un double swap de cotisations. Alors, un transfert de cotisations patronales de la branche AT-MP vers la branche vieillesse. Donc, en tout, hein, c'est quand même plus d'un milliard d'euros. Pourquoi la branche AT-MP? Nathalie, tu me compléteras, hein, mais c'est parce que c'est une branche excédentaire et qui considère que c'était justifié de faire comme ça. Et donc, avec ce transfert de cotisations, ça fait des recettes supplémentaires pour la branche vieillesse, pour le système de retraite, ce qui permet, au regard des chiffres qui nous sont présentés, d'arriver à peu près, hein, ce sont des arrondis à chaque fois, hein, mais d'arriver à peu près à boucler financièrement la réforme. Néanmoins, nous, on est très dubitatif sur plusieurs points. Au-delà du fait que ce transfert de cotisation, bon bah, intuitivement, on n'y était pas forcément favorable au départ, puisque il y a une négociation AT-MP en cours, il y a des travaux qui sont faits sur la prévention ambitieux, et donc là, bah, ça enlève une certaine marge de manœuvre. Mais je te laisserai, Nathalie, c'est toi qui chapeaute le sujet. Et néanmoins, voilà, avec des hypothèses économiques optimiste et surtout un coût estimatif de certaines mesures, notamment sur l'usure professionnelle, qui nous apparaît peut-être sous-estimé. Donc voilà, point d'interrogation quand même sur l'équilibre en 2030. Néanmoins, si on n'avait rien fait, c'était encore une autre histoire. Nathalie, peut-être sur AT-MP, tu veux...
Non, Tu as raison, c'est vrai que comme il y avait une négociation avec Centre Travail, maladie professionnelle, l'objectif c'était d'utiliser les excédents de la branche pour faire plus de prévention et plus de réparation. Néanmoins, on a demandé au gouvernement d'avoir en fait un nouveau chiffrage des excédents de la branche. Bien sûr, l'excédent sera moindre puisqu'il y a 1,5 milliard qui sera transféré à la branche retraite, mais il nous reste quand même 1 milliard pour négocier côté AT-MP. Il faut quand même souligner que l'objectif du gouvernement en faisant ce swap, c'était de ne pas augmenter en fait les charges supplémentaires, c'est-à-dire que l'augmentation des cotisations employeur-retraite seront compensées par ce swap. Donc, c'est un coût neutre pour les entreprises. Donc, ça, c'est aussi un point, si on veut boire le verre à moitié plein, un point positif pour les entreprises.
Juste pour conclure avant de prendre vos éventuelles questions, il y en a peut-être un certain nombre, Gauthier, tu vas nous dire. On vous a dit en introduction hein, que désormais, donc le texte qui a été adopté via la procédure du 49.3, le gouvernement ayant engagé sa responsabilité, il est désormais soumis à l'avis du Conseil constitutionnel et donc il est, on va dire probable, on va se lancer, il est probable que certaines mesures soient censurées. On a évoqué l'index senior, on a évoqué le contrat de fin de carrière. Alors, pourquoi censurer? On a dit que c'était probablement des cavaliers sociaux. En fait, le Conseil constitutionnel va vraisemblablement considérer que ce sont des mesures qui n'ont rien à faire dans une loi financière, parce que je vous rappelle que c'est le véhicule législatif utilisé par le gouvernement. Et par ailleurs, elles n'auront pas d'impact direct en termes de recettes en 2023. Or, toutes les mesures prises dans une loi de financement rectificatif de la sécurité sociale doivent avoir un impact financier sur l'année en cours. Néanmoins, Nathalie l'a précisé, elles reviendront autrement, peut-être après une concertation avec les partenaires sociaux, ce qui serait pas plus mal, hein, voilà, dans d'autres lois. Et on a parlé rapidement du sujet du transfert du recouvrement. Je ne sais pas si tout le monde avait en tête le sujet, mais il était prévu, il me semble que c'était la loi de financement de sécurité sociale de 2020, de transférer le recouvrement des cotisations à Agirc-Arrco aux URSSAF. Il y a eu une opposition unanime des partenaires sociaux, puisqu'on considère que l'Agirc-Arrco fait le boulot correctement et que il y avait un risque inutile à opérer ce transfert. La loi prévoyait l'abandon, comme on l'avait demandé unanimement, de ce transfert. Néanmoins, il est possible que le Conseil constitutionnel considère que ça n'a pas à être dans ce projet de loi financier. Néanmoins, on a l'assurance orale, hein, on a l'assurance du gouvernement que cette mesure reviendra potentiellement dès 2024 dans un autre projet de loi. Je m'arrête.
Eh bien, merci beaucoup. C'est un sacré exercice que de résumer tous ces changements et en peu de temps, donc bravo. Une première question peut-être sur les modalités de mise en pratique. Est-ce que on peut aujourd'hui essayer d'identifier à quelles échéances il faudra mettre tout ça en place et ce que les entreprises devront concrètement faire pour être en ordre?
Tu me complètes, Nathalie. Donc déjà sur tout ce qui est mesure d'âge. Le relèvement de l'âge, hein, il interviendra dès la rentrée, dès le 1er septembre, et il en ira de même pour les mesures dérogatoires, carrière longue, etc. Alors on va peut-être pas rentrer dans un détail trop technique, mais on pourra vous envoyer. Il y a des tableaux qui existent, qui sont assez bien faits, mais qui permettent de voir à partir de quelle génération l'impact débutera. Mais en tout cas, ces mesures intervenant au 1er septembre doivent concerner en principe hein, les générations nées à compter de 1961. Néanmoins, on va pas rentrer dans un détail plus important. Sur les mesures, notamment, je te laisserai sur usure, mais sur les mesures seniors, bon alors, comme on vous l'a dit, hein, tout ce qui est index, contrat de fin de carrière, il est possible qu'elles soient censurées. Donc si elles sont censurées, elles reviendront peut-être via un autre projet de loi. Cette fois, ce sera un projet de loi dédié et pas une loi financière. Donc, il n'y aura pas de nécessité d'urgence. Mais si le Conseil constitutionnel les maintient, eh bien, elles doivent être mises en œuvre dès cette année. Ça veut dire que, concrètement, eh bien, il va falloir lancer très vite des concertations et pour pouvoir définir les modalités de mise en œuvre. Mais du coup, c'est vrai que c'est pas forcément une solution qui serait facile, puisqu'il faudrait aller très vite. Mais de manière générale, hein, le problème de ce projet de loi, c'est l'urgence. Et par conséquent, il va falloir passer par voie réglementaire, par décret, beaucoup de mesures. Donc on sera vigilant. Mais encore une fois, le projet de loi, il fixe les grands principes et ensuite ça va être décliné avec cette contrainte pour l'année. Et donc sur Usure Pro, oui, il y a la négo. Sur Usure Pro,
c'est ce que tu dis, c'est qu'il prévoit en fait une négociation de façon rapprochée, mais il y aura quand même décret. Donc il va falloir articuler le fait qu'il va falloir discuter des décrets, et ça se fait pas en un jour, hein, il y aura quand même de quelques mois, plus cette négociation. Donc je pense qu'à partir du moment où on aura la réponse du Conseil constitutionnel, on se rapprochera bien sûr du cabinet et du gouvernement pour voir comment on articule décret, négociation dans des timings qui semblent pas très cohérents. Mais comme tu l'expliquais, comme c'était un PLFRSS, ils ont dû donner aussi des entrées en vigueur très rapprochées et dans l'année 2023 pour pouvoir faire le dispositif. Donc, dès le 14 avril, nous, on se rapprochera et on verra comment on articulera. Mais toutes les mesures qui font fonds d'indemnisation, enfin, FIPU, tout ce qui est usure, ça peut aller assez vite. En tout cas, ça sera début de la rentrée ou début 2024.
Ok. L'été sera chargé, quoi. C'est ça?
Oui.
Très bien. Une question sur les carrières longues. Comment mesurer les effets de la réforme au cas par cas? Parce que c'est vrai qu'au final, quand on est un service RH ou au sein d'entreprise, on est assommé de questions de la part des salariés, ce qui est tout à fait normal. Donc, est-ce qu'il existe des outils de simulation Est-ce qu'il y a une méthode?
Alors, très, très bonne question. En effet, on navigue un peu à vue. Les caisses de retraite, alors la CNAV, mais également l'Agirc-Arrco et donc les groupes de protection sociale, les institutions de retraite complémentaire qui gèrent la retraite complémentaire Agirc-Arrco, sont en train et ont même mis en place des outils, donc normalement accessibles pour la CNAV via le site de l'assurance retraite ou l'Agirc-Arrco en allant sur le site du groupe de protection sociale auquel votre entreprise est rattachée. Et ces outils doivent permettre de simuler l'impact. Il vous demande de remplir un certain nombre d'éléments pour confirmer déjà que vous êtes éligible aux carrières longues, et ensuite vous pourrez faire des simulations. La difficulté, hein, c'est que notamment sur ce dispositif là les dernières évolutions, elles ont été très récentes, hein. Au départ, il n'y avait pas forcément ce système de quatre piliers, et donc les caisses travaillent d'arrache-pied. N'hésitez pas à consulter les sites officiels de l'assurance retraite, de l'Agirc-Arrco, et le cas échéant d'essayer de les contacter. C'est pas toujours facile, mais pour avoir un rendez-vous dédié, hein, il est prévu vraiment un renforcement des effectifs et des moyens pour pouvoir répondre au mieux aux interrogations des salariés. Et c'est vrai que aussi d'un point de vue des entreprises, ça a des conséquences importantes, hein, puisque ne serait-ce que le report de l'âge légal pour les entreprises qui étaient avec des procédures de plans sociaux, de plans de départ volontaires, avec des dates prévisionnelles de départ de salariés. Tout ça a des grosses conséquences, et donc vous pouvez vous renseigner en tout cas sur les sites officiels.
Alors, j'ai une question que je répète comme ça, de manière assez brute. Les points pénibilité permettent la retraite anticipée. Cela peut s'appliquer également pour les carrières longues.
Soit le salarié fait le choix entre il part en carrière longue ou il part en C2P, en compte pénibilité. Et on peut pas cumuler. C'est vrai que parfois, certains salariés qui pourraient bénéficier du C2P partent peut-être en carrière longue. Mais en fait, ça, on ne sait pas. On peut pas déterminer qui pourrait bénéficier du CDP et préfère partir en carrière longue. Intuitivement, on le soupçonne. Mais après, c'est un choix, on cumule pas. Je sais pas si on répond, mais on peut cumuler les deux dispositifs. Oui.
Ah non, c'est pas une question, mais il y a plusieurs personnes lors de l'inscription à la session, on souhaitait que soient évoquées les règles applicables, pardon, pour la retraite des travailleurs handicapés.
Alors,
c'est un sujet qui est
important. Alors, sujet complexe, comme je le disais en introduction. Le principe, hein, tout est dans le titre, retraite au titre des travailleurs handicapés, il faut justifier d'un handicap et surtout d'une période travaillée avec ce handicap. Donc la reconnaissance du handicap, elle passe notamment par la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, la RQTH, ce qu'on appelait auparavant la reconnaissance Cotorep. Et du coup, la possibilité de départ, elle peut se faire dès 55 ans, sous condition d'avoir réuni un certain nombre de trimestres, et dans ce certain nombre de trimestres, on vérifie, on veille à ce que il y ait un certain nombre de trimestres qui soient cotisés, c'est-à-dire qui aient été octroyés vraiment en contrepartie d'une cotisation. Le projet de réforme des retraites, il maintient l'âge de départ dérogatoire à 55 ans et il assouplit le dispositif. Donc déjà, il y aura une facilitation de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, qui est une des conditions pour ouvrir le droit anticipé. Et par ailleurs, la condition d'activité avec cette reconnaissance du handicap, elle va être assouplie. Je vous disais qu'aujourd'hui, il faut justifier d'un certain nombre de trimestres acquis, dont un certain nombre doivent être cotisés au titre d'un salaire cotisé. Demain, on ne regardera que le nombre de trimestres acquis et non plus la notion de cotisation. Parce qu'on pouvait avoir des personnes qui avaient eu beaucoup de périodes de chômage, de maladies non cotisées, et qui ne rentraient pas dans le cadre très restrictif de la réglementation de la retraite au titre des travailleurs handicapés. Donc, encore une fois, demain, les conditions seront assouplies, à la fois sur la reconnaissance, à la fois sur la notion de travail, de trimestre acquis, et enfin, l'âge dérogatoire est maintenu à partir de 55 ans. Donc en fait, hein, entre 55 et 64, eh bien, on pourra aussi partir, hein, c'est pas forcément 55, et forcément les conditions de trimestre sont moins importantes plus on avance en âge. On demande pas la même carrière à 58 qu'à 55, voilà. Mais encore une fois, si vraiment il y a des questions techniques, des difficultés que vous rencontrez dans le cadre de vos activités RH, on verra avec Gauthier comment vous accompagner.
Oui, exactement. D'ailleurs, si vous avez des questions après le webinaire, n'hésitez pas à nous les faire parvenir et puis on fera en sorte de vous répondre. Enfin, vous ferez en sorte de vous répondre. Une question, parce que c'est vrai que en fait les adhérents du MEDEF, ce sont les entreprises, mais ce sont aussi les fédérations professionnelles. Et donc, quelles seront les obligations des branches professionnelles dans la mise en place de cette réforme?
Alors, sur les branches professionnelles, par exemple, hein, pour définir en fait les métiers et les postes qui sont concernés, notamment pour le facteur ergonomique, là, ça serait le rôle des branches professionnelles, notamment. Peut-être que côté senior, il y aura peut-être des obligations de négocier sur ce sujet, puisqu'il y a une nouvelle obligation de négocier. Donc, c'est toujours le traditionnel négociation sur des sujets seniors, FIPU, facteurs ergonomiques, tu vois. Donc,
peut-être une précision aussi sur le fameux CDI senior, le CDI fin de carrière. On l'a pas précisé tout à l'heure, encore une fois, parce que on ne sait pas quel est l'avenir, hein, de ce dispositif, mais il était prévu. Le projet de loi, il prévoit le grand principe. Bon, ça concerne les demandeurs d'emploi âgés de 60 ans et plus, et il y aura telles conditions favorables en termes de rémunération et de rupture du contrat de travail. Mais il était aussi prévu que on laisse aux branches le soin de négocier par secteur, hein, sur les modalités de ce contrat en termes de rémunération et en termes d'avantages divers. Donc, comme l'a dit Nathalie, mais je ne fais que te s'il n'y a pas de oui, absolument. Mais du coup, comme le dit Nathalie, sur ces sujets, disons usure professionnelle, emploi des seniors, il y aurait soit une concertation, soit l'engagement de négociations pour en définir les contours. Voilà. Donc, les branches auront un rôle important dans la déclinaison et la mise en œuvre des grands principes de cette réforme.
Vraiment, c'est vrai qu'on attend, nous, maintenant, un peu le 14 avril avant, tu vois, de détailler, oui. De faire un guide détaillant toutes les mesures, puisque tout ce qui est senior, on a un petit doute. Donc, mais après le 14 avril, on en saura plus et on détaillera plus pour nos fédérations.
Oui, c'est sûr que si on ne peut pas anticiper ce qui restera, ça ne sert à rien d'avancer. Oui, c'est certain. Est-ce que vous seriez d'accord de réaliser un petit cas pratique? On va essayer? On peut essayer ou pas?
Essaye.
Alors, concrètement, j'ai des salariés nés en 1963 qui peuvent prétendre, avant la réforme, de partir à 60 ans, carrière longue, et qui doivent faire leur dossier avant fin juillet. Vont-ils être impactés?
Donc, salariés nés en 63 qui peuvent prétendre à la réforme à partir de 60 ans, carrière longue, et qui doivent faire leur dossier avant fin juillet. D'accord, ils doivent faire leur dossier avant fin juillet.
Oui, là, maintenant.
Bah. Logiquement. Pardon, je parle sans micro.
Estipulé.
Oui, on va prendre des précautions.
Oui, oui.
Parce que peut-être qu'il faudrait regarder la carrière, etc. Si on considère que la personne peut bénéficier d'une carrière longue et est éligible à une carrière longue à effet avant le 1er septembre, avant la promulgation de la loi, en principe, elle devrait passer entre les mailles du filet, si vous me permettez l'expression. Mais je prends des précautions, il faudrait voir le dossier en détail, mais voilà. À fin juillet, si le dossier est complété et que ça dépend aussi de la date potentielle de départ. Donc, je ne sais pas ce que veut dire faire le dossier avant fin juillet. Mmh. Voilà. Mais bon, on pourra en reparler.
Oui. Mais d'ailleurs, je pense que c'est pas mal de le dire de cette manière. Donc, tout salarié qui est censé partir à la retraite après septembre va être impacté par la réforme.
Exactement.
C'est une belle manière de conclure cet aspect. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je pense qu'en fait, j'ai fait le tour de toutes les demandes de précision. Il reste quelques minutes, donc n'hésitez pas. La surcote mère de famille est-elle attribuée à vie ou de façon temporaire?
Alors, c'est une surcote viagère, donc elle est attribuée à vie. Et vous voyez, c'est 5% de la pension de retraite de base de sécurité sociale, potentiellement à partir de 63 ans si on a le taux plein. Donc, je ne sais pas, disons que c'est une mère de famille qui, dès 63 ans, réunit les conditions du taux plein. Donc, normalement, elle doit attendre d'avoir 64 ans pour partir. Elle pourra néanmoins avoir une surcote dès 63. Mettons qu'elle part à 65. Eh bien, elle aura eu, sur sa 63e année et sur sa 64e année, 5 plus 5, ça fait 10% de surcote en plus. Encore une fois, uniquement sur le régime sécurité sociale. Donc, ce n'est pas la globalité de la... Voilà. Mais en plus, voilà, plus on travaille, plus on cotise. Hein, donc, forcément, ça améliore les droits.
Oui, une petite question sur la retraite progressive. Est-ce que vous pouvez revenir dessus, réexpliquer la notion et comment le processus sera mis en place?
Alors, un peu de mémoire, parce que je l'ai pas sous les yeux. Aujourd'hui, le dispositif, il permet dès 60 ans à quelqu'un qui réunit déjà, enfin qui a déjà une carrière assez importante, hein, qui a au moins 150 trimestres de retraite, dès 60 ans avec 150 trimestres de retraite, de demander. C'est une faculté de demander à passer à temps partiel. Donc, c'est pas forcément un mi-temps. Hein. Il y a une, voilà. Aujourd'hui, ça va entre 40 et 80% de temps partiel. Et demain, ce sera même un petit peu assoupli sur le temps partiel. Donc, une notion très, très, très large. Dès lors que l'employeur accepte le passage à temps partiel, eh bien, le salarié fait une demande, comme une demande de retraite, mais c'est une demande de retraite progressive. Il fait une demande auprès de ses caisses de retraite, donc caisse de retraite, régime général de sécurité sociale et caisse Agirc-Arrco. Et donc, concrètement, par exemple, je demande à 60 ans, je remplis les conditions, de passer à mi-temps. Donc, je touche 50% de ma rémunération, a priori. Eh bien, la caisse de retraite va compléter à hauteur de 50% des futurs droits à retraite calculés à la date d'entrée dans le dispositif. Donc, ça fait un quotient de 100. 50% salaire, 50% retraite. je suis à 40%, c'est 40% salaire, 60% retraite. Alors, on n'arrive pas à 100% du salaire, hein, parce que la retraite, c'est pas le même niveau que le salaire. Mais néanmoins, on comble la perte de revenus issue du passage à temps partiel par le bénéfice anticipé d'un peu de retraite. Et par ailleurs, hein, y a pas de condition de sortir du dispositif à l'âge de la retraite, hein, ou lorsqu'on atteint le taux plein, la retraite progressive. Une fois qu'on rentre dedans, eh bien, on peut y rester jusqu'à ce qu'il y ait la mise à la retraite ou jusqu'à ce qu'on souhaite partir ou qu'il y ait une rupture du contrat de travail. Et donc aujourd'hui, c'est assez méconnu parce que bon, voilà, c'est un dispositif qui a pas forcément fait l'objet d'une grande communication et qui est qui peut inquiéter les entreprises parce que le salarié va demander un passage à temps partiel. Forcément, ça impacte l'organisation du travail et l'organisation des services. Néanmoins, c'est un dispositif que nous on soutient parce que c'est un mécanisme qui existe déjà et qui paraît répondre à beaucoup de problématiques sur le maintien en emploi. Pour l'entreprise, c'est quand même positif. On réduit l'activité, donc le coût, la masse salariale, et on maintient aussi les salariés en emploi. Voilà. Donc après, vraiment, hein, si vous avez besoin de davantage de détails sur le dispositif, vous avez sur les sites officiels, servicepublic.fr, même sur l'assurance retraite, beaucoup de, que ce soit des cas pratiques ou des explications détaillées sur le dispositif. Et demain, hein, le changement, pardon, c'est que on va renforcer la communication sur le dispositif. On va faciliter un peu le passage à temps partiel en ouvrant encore plus de possibilités, vraiment pour des tout petits temps partiels, par exemple. Et puis, j'allais dire, mais c'est déjà pas mal. Non, je crois que c'est à peu près les principales mesures. Mais aussi beaucoup axé sur la communication.
Très bien, merci beaucoup. On a pas mal de questions, de cas pratiques, mais on va pas pouvoir le faire parce que l'idée de cette session, c'était de vous présenter les principales mesures. Et malheureusement, on peut pas faire du conseil juridique et on risquerait en plus de ça de ouais exactement parce que c'est pas notre métier finalement hein, donc voilà il y a une question mais on y a répondu mais c'est peut-être bien de le redire quel est le calendrier final et quand est-ce que ça va se terminer? Je pense que c'est une personne peut-être qui prend le train régulièrement.
À 64 ans, ça se termine.
c'est dur de répondre à cette question. Vous avez entendu Nathalie en introduction. Donc on attend la décision du Conseil constitutionnel. Il y a un ultime recours dont le Conseil constitutionnel va examiner la conformité. C'est la NUPES qui a demandé la mise en œuvre d'un référendum. Alors, je confonds toujours, c'est initiative partagée ou populaire, je sais plus. Non, c'est partagé. Hein. Partagé. Référendum d'initiative partagée. Donc, je sais pas si tout le monde avait la notion en tête. Alors, on n'est pas spécialiste au niveau des affaires publiques, mais ce qu'on peut vous dire, c'est que a été déposée une demande de référendum et que si jamais... il va y avoir une question qui va être soumise aux Français, aux électeurs, qui va être de mémoire. Est-ce que vous souhaitez que l'âge de la retraite soit figé à 62 ans? Bon, ça va être ça le référendum. Et si on a de mémoire 10% des électeurs, enfin à peu près, enfin si on a 5 millions de répondants qui disent au référendum oui, on veut que l'âge soit figé, eh bien en principe ça doit remettre en cause la réforme. Néanmoins, on est prudent là-dessus parce que ce dispositif n'a jamais abouti. L'exemple qu'on a en tête, c'était pour la privatisation de l'aéroport de Paris et on n'avait pas passé l'étape des votants, des 5 millions de d'électeurs. Donc wait and see. Voilà. Non, mais on ne sait pas ce que ça pourrait donner. C'est un peu inédit, mais déjà, si le Conseil constitutionnel valide modulo les mesures qu'on a évoquées, mais le principe de la réforme, en principe, il n'y a plus grand-chose qui devrait la faire reculer. Mais ne jamais dire jamais, surtout en ce moment.
Ne jamais dire jamais, oui, exactement. Ouais. Merci beaucoup. Il y a d'autres questions, mais on va pas pouvoir y répondre tout de suite. On essaiera de les prendre et puis de vous répondre par écrit. Cette rencontre, c'était une première rencontre, mais il y en aura d'autres. Voilà, c'était une première étape à la suite du vote de la loi. Et bien entendu, on vous fera parvenir les prochaines rencontres et on pourra répondre à vos questions au fur et à mesure que les précisions arriveront par décret concernant cette réforme.
Oui, parce que la prochaine rencontre, au moins, on aura eu le Conseil constitutionnel, le résultat de la RIP. Enfin, voilà. Donc, ça sera plus confortable pour nous de ne plus parler au conditionnel, mais de donner l'ensemble des règles.
Et peut-être un mot de la fin, Gauthier, mais je vois que, voilà, on n'est pas encore à 10h30. Non, c'est vrai que sur ces sujets-là, il faut vraiment anticiper les impacts RH. Vos questions, elles caractérisent bien hein, les inquiétudes, forcément sur la gestion des emplois, sur la gestion des effectifs. Ces conditions de départ, qui évoluent, elles vont impacter. Forcément, hein, il peut y avoir aussi des risques. Nathalie va faire des gros yeux quand je vais le dire, mais comme les salariés vont rester en emploi, bon bah c'est des salariés qui sont potentiellement plus exposés à des risques en termes de santé, de prévoyance, donc avec des répercussions potentielles sur le coût des couvertures. Voilà, il y a tous ces sujets là. Index senior, voilà, hein, s'il est mis en œuvre et on verra quand. Les entreprises devront répondre à ces obligations. On sera très vigilants sur les indicateurs. Vraiment, j'insiste encore hein, avec Nathalie. Depuis le début, on n'était pas favorable hein, à cet index. On était plutôt sur une notion de. On considère que c'est contre-productif de faire des choses coercitives. Il faut plutôt valoriser les bonnes pratiques. Bon, maintenant, il est là. On verra d'ailleurs s'il est là jusqu'au bout. Mais du coup, c'est des mesures, usure professionnelle, emploi des seniors. Voilà, on va vraiment être vigilant parce qu'on sait qu'elles impactent directement vos entreprises.
C'était un podcast de l'Académie. Nous tenons à remercier les collaborateurs du MEDEF qui ont œuvré à sa réalisation, ainsi que l'ensemble des intervenants. Retrouvez de nombreux autres enregistrements sur le site l'academiemedef.fr. Merci pour votre écoute et votre fidélité. À bientôt.